France Culture.
Bonjour, monsieur. Moi, je suis Madame Lasserre, le juge des tutelles.
Pour des raisons de confidentialité, la loi nous oblige à modifier la voix du majeur protégé dans cette audition.
J'avais eu papa une question de café.
Mettez-vous là.
Majeur Barron, oui.
C'est le foyer de vie qui a préparé.
C'est moi qui ai eu l'idée.
Ah ben c'est bien.
Oui, c'est moi qui ai donné l'idée à un discuteur.
Est-ce que vous en voulez un petit peu?
Oui, j'ai vraiment une goutte chauffée. Mais savez-vous,
la mandataire disait que vous aviez besoin d'être accompagné, que vous, oui. La mesure devait continuer.
Oui. Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, il faut continuer.
C'est ce que dit aussi le docteur.
Oui, le docteur.
Hein, le docteur, oui. Il dit que vous avez eu un parcours de vie difficile.
Difficile, oui. Je n'ai pas eu ce que je voulais.
Exactement. Et que donc, il faut continuer à vous aider, à faire les démarches, à faire les papiers.
Les papiers.
Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, je suis d'accord. J'ai une fille qui a 31 ans. Et,
En fait, vous êtes revenu parce que vous voulez être près de la famille.
Oui, puis c'est pas ça. J'ai fait plusieurs places.
Comment vous dépensez l'argent?
Au jeu gratté.
Au jeu gratté, d'accord.
Mais j'y joue pas
souvent.
C'est votre plaisir.
Vous avez le droit.
Mais j'y joue pas souvent.
D'accord. Vous savez si vous dépensez plus d'argent que ce que vous percevez ou pas?
Non. L'argent poche, je suis tombé pile-poil.
Et vous dépensez, qu'est-ce que vous avez tous les mois?
J'ai 10 euros tous les deux jours.
En fait, il a été convenu qu'on envoyait une somme par mois et qu'avec son référent, il va chercher son argent. Et qu'en travail avec l'équipe, il lui remue tous les deux jours 10 euros pour lui permettre d'avoir de l'argent tout le temps. Parce qu'en fait, monsieur dépense rapidement, on va dire.
Non, mais là, je me suis stoppé.
Voilà. Donc, on a essayé de trouver plusieurs subtilités. Depuis, donc, il y a de l'argent au mois, de l'argent pour les sorties, il y a de l'argent pour l'alimentation et l'hygiène, et il y a de l'argent pour le tabac.
Oui.
Vous avez votre fille, j'ai vu aussi.
J'ai ma fille Erika, en cas qu'il m'arrive quelque chose.
Voilà. Et vous aviez évoqué avec votre mandataire la possibilité de lui verser quelque chose tous les mois.
Oui, je lui verse 5 euros.
Vous voulez verser 50 euros tous les mois?
50 euros encore.
Moi, il n'y a pas de difficulté pour moi.
Non.
Bien sûr.
Oui.
Je comprends bien. Elle rencontre des difficultés?
Non.
Non,
non.
Mais c'est juste pour lui faire plaisir, un petit cadeau comme
plaisir.
Ça.
D'accord. Elle a toujours travaillé.
Et elle vient vous voir de temps en temps?
Ma fille?
Oui.
Elle doit passer pour un anniversaire, en principe.
Vous maintenez votre demande de renouvellement de la mesure de protection?
Totalement.
Moi, je suis d'accord.
Voilà,
vous êtes d'accord.
Oui.
Je suis d'accord.
Et le fait de revenir en structure et d'avoir toute l'équipe autour, voilà, l'a rassuré. Il a besoin d'être cadré, ça lui a fait un bien.
Ça m'a fait un bien.
Un bien fou.
Mais je le reconnais, c'est comme si j'habitais ici, à ma maison, c'est pareil.
Exactement.
C'est pareil.
Alors, on peut faire une mesure de 15 ans.
15 ans.
Hein?
Oui.
Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne se verra pas d'ici 15 ans.
Oui.
Si vous avez besoin de me voir. Si vous avez des demandes spécifiques, des choses qui vont pas ou des choses qui vont bien, vous pouvez toujours me contacter. Vous pouvez me donner le procès-verbal maintenant? Merci, monsieur Relaïs. Donc, je vais vous lire ce que monsieur le greffier a noté.
Oui.
MP, c'est majeur protégé.
Oui, c'est ça.
Pour le renouvellement de la curatelle, je signerai pour la garder.
Oui.
Je vous ai dit, vous êtes revenu pour être près de votre famille?
Jour ordinaire au tribunal d'Aurillac. Michel Pomarède, Jean-Philippe Navarre. Deuxième épisode, Omerta dans le Cantal.
Oui. 8h30?
Oui.
Vous avez fait bonne route?
J'ai fait bonne route.
On vous retrouve ce matin parce que vous êtes à nouveau assesseur.
Voilà, pour ce deuxième dossier de cette session d'assises. Et cette fois-ci, donc, avec un autre président.
Et alors, on parlait de secret des délibérations hier. Quand vous sortez, et depuis, vous le faites depuis des années, vous asseoir en face de jurés, est-ce que certaines phrases, certaines expressions, certaines émotions de jurés continuent à vous habiter longtemps après ou pas du tout?
Ah oui, pour certaines affaires, il y a des délibérés qu'on n'oublie jamais. Oui, oui, ça c'est absolument certain. Parce que quelquefois, ce sont des délibérés difficiles, avec des positions très, très opposées, notamment sur culpabilité ou acquittement. Donc là, les enjeux sont extrêmement lourds. Et puis parfois, c'est surtout des très bons souvenirs. Par exemple, hier, ce qui a été très agréable, c'est qu'il y a plusieurs jurés qui, après le délibéré, en sortant, on dit « Ah ben, on espère qu'on sera tiré au sort à nouveau demain ». Ça fait très plaisir, parce que ça veut dire qu'on a fait une bonne œuvre de justice ensemble, qu'ils ont eu le sentiment d'avoir travaillé dans des bonnes conditions, réfléchi, échangé, que ça leur a apporté quelque chose d'important dans leur connaissance du fonctionnement de la justice en France. Ils ont compris à quel point les décisions de justice sont des décisions complexes. Et ça tranche avec ce qu'ils pouvaient percevoir d'après ce que certains médias peuvent transmettre du fonctionnement de la justice. Ils ont compris que c'était très, très difficile une décision de justice.
Et vous, en tant qu'assesseur, est-ce que vous avez une appréciation de comment un président ou une présidente mène les débats ? Est-ce que ça colore différemment une session d'assises ou pas ?
Ah oui, bien sûr, chaque président ou chaque présidente a son style. Ça joue un rôle dans le bon déroulement de l'audience, évidemment, dans la capacité à faire partager la meilleure connaissance possible des éléments du dossier, puisque c'est l'oralité des débats qui gouverne aux assises. Et puis, le rôle est également important pour rassurer les jurés. C'est très compliqué d'être tiré au sort, d'être extrait brutalement de sa vie quotidienne et de venir se plonger dans des affaires douloureuses, difficiles. Et donc la capacité des présidents ou présidentes à rassurer les jurés, à bien leur expliquer quel va être leur rôle, quelle va être leur place, tout ça joue un rôle important.
Question subsidiaire, est-ce que les poules ont apprécié les pizzas ?
Ah, alors, écoutez, les poules, c'était la fête au poulailler, en particulier la 4 saisons, parce qu'il y a du jambon, c'était la grande fête.
Bonne journée.
Tribunal judiciaire d'Aurillac, bonjour.
L'adresse postale, monsieur ?
21 place du Square, 15 000 Aurillac. De 8h30 à midi et de 13h30 à 17h.
Philippe Jouillard, vous avez une grosse pile de dossiers sous le bras. C'était quoi ce matin, à votre agenda ?
C'était les référés. Ce qu'on appelle les référés, les procédures accélérées au fond. Donc les procédures d'urgence, où on va trancher rapidement.
Les référés en quoi ? Quelle discipline ?
Toute matière, notamment les problèmes de construction. Vous avez construit une maison, elle a été mal construite. Donc il faut désigner un expert. Et ensuite, l'expert va faire son travail. Et ensuite, en fonction de ce que vous allez avoir comme résultat au niveau de l'expert, vous ferez ou non un procès qu'on appelle au fond, c'est-à-dire là, vous saisirez le tribunal pour trancher tout le litige. Là, on ne tranche pas le litige. Parfois, on donne ce qu'on appelle des provisions, c'est-à-dire un peu d'argent, en attendant la suite du procès, mais la majorité des cas, c'est une expertise qui est ordonnée. Voilà, que je suis après, moi, d'ailleurs, cette expertise en tant que juge chargé des expertises. Il y a un peu de temps, parfois, parce qu'on sait que ça va durer.
Le tout avec sourire, bonhomie, bonne ambiance, en fait.
Bien sûr. Il n'y a pas de raison que la justice soit triste en permanence. La justice civile, c'est la justice du quotidien, la justice pour les gens. Mais vous avez vu, des gens en personne, il y en a assez peu en fait. C'est la justice qui est entre les magistrats, les avocats et quelques personnes qui viennent. C'est une procédure très intéressante, la procédure des référés, parce qu'elle est orale. C'est-à-dire que même si tout se joue en fait dans la réalité, dans ce qui est écrit par les avocats, ce qu'on appelle les conclusions dans notre jargon, il arrive aussi qu'il y ait des gens en personne qui n'est pas d'avocat et qui viennent à ces audiences et qui s'expliquent. Donc là, ça a un intérêt parce que la procédure est orale. Donc on peut effectivement recevoir ce que disent les gens.
Et à la sortie de l'audience, le président du tribunal que vous êtes discute avec le commissaire de police.
Effectivement, aujourd'hui, on a une cour d'assises. Donc le directeur départemental de la police était là pour assurer la sécurité et organiser un certain nombre de choses. Voilà pourquoi on en parle. Et effectivement, on est en proximité, on se connaît. Donc on se parle.
Bonjour.
Bonjour.
À plus.
Maître Canis, qu'est-ce qui vous occupe aujourd'hui en cour d'assises? C'est quoi le dossier?
C'est une affaire dans laquelle je suis parti civil pour une fratrie de plusieurs enfants qui ont été victimes d'abus sexuels commis par un prêtre il y a quelques années.
Comment vous sentez les choses au tout début là?
Bah, il y a une partie des faits qui a été reconnue, à savoir tout ce qui concerne les agressions sexuelles. Et puis, il y a une partie des faits qui est contestée, à savoir le viol sur l'un des enfants. Voilà. Donc, on va tenter de faire reconnaître la réalité de ce viol, de ces viols, puisqu'il y en a eu plusieurs. C'est là-dessus que les débats vont porter essentiellement. Mais j'espère bien qu'il sera condamné pour l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre lui.
La fratrie, ils ont quel âge ?
Ça s'étale aujourd'hui entre, je dirais, 16 et 25 ans, sous réserve d'erreur. Et donc, il faut enlever, au moment des faits, une dizaine d'années, pour chacun, à peu près. Hein. Personnellement, c'est la première fois que j'interviens dans une affaire contre un prêtre, ou pour un prêtre. J'étais intervenu devant une cour d'assises, hein, j'entends. J'étais intervenu devant le tribunal correctionnel pour des victimes d'un prêtre. Mais devant une cour d'assises, c'est la première fois, personnellement, que j'interviens dans ce type de dossier. Je crois pas, alors je connais pas tout, mais je crois pas qu'il y en ait eu énormément en Auvergne. Il y en a eu quelques-uns, mais assez peu.
À plus tard.
Je regarde, parce que là, il doit être 9h30. Hein. Je suis bavard. Là, on se dirige vers le JAF, la partie où il y a le juge aux affaires familiales, que vous voyez sur la droite, avec le secrétariat du JAF. Et on arrive à l'instruction, et au greffe de l'instruction, d'ailleurs, vous voyez. On a une greffière de l'instruction qui passe devant nous. Et on a le juge d'instruction.
Alors, elle est en acte et après, elle vous assiste pendant 10 jours. Alors.
Et là, on a le juge d'instruction, si vous voulez rentrer. Une seconde. Hein.
Bonjour.
Voilà.
Bonjour.
Donc, vous voyez le bureau du juge d'instruction avec le juge d'instruction d'Aurillac. Il n'y en a qu'un à Aurillac, évidemment. Hein. Et il ne fait évidemment pas que ça, parce qu'il n'y a pas assez. Donc, il fait d'autres choses.
Je suis Nicole Orlic, juge d'instruction à Aurillac depuis septembre 2021. Donc c'est mon premier poste en tant que magistrat, je suis sortant d'école avant ça. C'était pas du tout mon objectif initial. J'ai eu un parcours universitaire où je voulais plutôt être dans le sport. Et finalement en fait c'est en arrivant en droit et en faisant les études pour être agent sportif que j'ai découvert le droit pénal et où du coup je me suis dit ah, pourquoi pas être avocat ou magistrat et j'ai passé les concours et j'ai eu le concours de magistrat.
La formation à l'école de la magistrature c'est 2 ans?
C'est 2 ans et demi, ça fait 31 mois je crois, si je compte bien, avec une partie en fait enfin à l'école en formation pure théorique et une partie en stage probatoire pour passer un petit peu dans toutes les fonctions et voir tous les types de contentieux, puisqu'en sortant d'école, on peut exercer en réalité tous les postes de magistrat. En fait, on a une liste de postes à la fin. Une fois que tout le monde a passé les examens, qu'on est validé en tant que magistrat, à ce moment-là, donc on va avoir une liste de postes et en fonction de notre rang de classement, on va pouvoir sélectionner les postes en fonction soit privilégier la géographie, soit privilégier au contraire un poste fonctionnel.
Alors juge d'instruction à Aurillac, ça veut dire quoi ?
Ma greffière dit toujours que c'est un super enquêteur. En réalité, c'est pas du tout ça, mais ça va être la direction d'enquête pour faire en sorte de créer un dossier. Donc créer un dossier, ça va être récupérer tous les éléments de preuve, puisqu'en général, ça va partir d'une plainte à un moment ou à un autre, ou sinon, en tout cas, d'une dénonciation quelconque. Une fois qu'on va avoir cette plainte, il va falloir déterminer s'il y a une infraction pénale. Une fois qu'on a déterminé qu'il y a une infraction pénale, il faut déterminer qui en est l'auteur. Et ensuite, il faut recueillir tous les éléments de preuve. Et donc, j'ai coutume de dire que le juge d'instruction, il va récupérer un petit peu tous les morceaux du puzzle. Et à la fin, va faire une ordonnance qu'on appelle une ordonnance de règlement. Alors, soit ça va être pour renvoyer devant une juridiction de jugement, soit au contraire, ça va être pour dire qu'il y a, enfin, il n'y a pas d'infraction, en tout cas, qu'on n'a pas identifié l'auteur. Et proposer à en cas de saisine d'une juridiction, en fait, un premier assemblage de ce puzzle pour que la juridiction puisse déterminer si oui ou non il y a une culpabilité de la part de cette personne.
Depuis 2 ans à Aurillac, quel type de dossier vous avez géré ?
Juge d'instruction à Aurillac, la grosse particularité, c'est qu'en réalité, c'est 50%. Donc, au-delà d'être juge d'instruction, il y a aussi la présidence de correctionnel, il y a du juge commissaire, il y a plusieurs autres fonctions, de l'assessorat, etc. Enfin, on participe en réalité au service général. Quand je suis arrivé à Aurillac, la première chose que m'ont dit les enquêteurs, c'est « Vous allez voir, Aurillac, c'est une super ville qui a 20 ans de retard. » Mais 20 ans de retard sur tout. y compris sur la délinquance. Et c'est vrai qu'on a une délinquance qui est quand même très modérée par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres ressorts, notamment au niveau des trafics de stupéfiants, au niveau de la criminalité organisée, au niveau des violences avec armes, etc. C'est quelque chose qui est quand même assez éloigné du Cantal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, sinon on s'ennuierait. Mais en tout cas, pas dans des proportions énormes, ce qui fait qu'on arrive à les traiter et à remonter finalement de fil en aiguille. L'avantage du Cantal, c'est que c'est une zone qui est assez enclavée. Donc il n'y a pas 50 moyens de venir dans le Cantal. Donc une fois qu'on identifie certaines têtes, etc., en général, on arrive à reconstituer et au niveau des enjeux de territoire, au niveau des clans, au niveau des connaissances, etc. Enfin, c'est un peu plus facile que si on était, par exemple, à Toulouse. Voilà, c'est faut toujours, de toute façon, un magistrat doit toujours s'adapter aussi à la manière dont la délinquance va être présente dans le territoire dans lequel il exerce. Après, le Cantal est plutôt une zone, en réalité, qui va se retrouver à un carrefour du fait de cette enclavement, on va se retrouver avec une lutte de territoire avec des personnes qui viennent du 9-3, avec des personnes qui viennent de Toulouse, avec des personnes qui viennent de la région lyonnaise, mais comme un peu partout sur le territoire, c'est simplement des luttes de pouvoir, et dès qu'il y a un réseau qui tombe, en réalité un autre va venir prendre la place. La nature a horreur du vide, les trafics de stupes aussi. Après, se mettre au vert, c'est une évidence, donc ça arrive. Après, il y a plusieurs mises au vert. Il y a une mise au vert parce que la personne a voulu sortir d'un trafic, et sortir d'un trafic, c'est extrêmement dangereux. Surtout pour les personnes qui étaient assez hautes dans le trafic, qui savent des choses. Donc elles qui vont plutôt chercher à se cacher, et il y en a d'autres qui vont plutôt profiter de la ruralité, parce que le Cantal, c'est très rural, il y a moyen de faire en sorte que les choses se voient moins. Et donc il y a ces deux aspects.
Est-ce qu'être juge d'instruction, c'est être un homme de pouvoir ?
Être magistrat, c'est avoir du pouvoir de toute façon. Juge d'instruction, on a moins qu'avant. À un moment, alors j'ai pas du tout connu moi cette période, ça relève de l'histoire du droit maintenant, mais la période où il n'y avait pas de juge des libertés à détention et où c'est le juge d'instruction qui gérait les investigations, qui gérait la détention provisoire, c'est quelque chose qui est difficilement concevable avec mon regard actuel. Donc on en a beaucoup moins. Aujourd'hui, à un moment, on disait que le juge d'instruction était le magistrat le plus puissant de France. Aujourd'hui, on a tendance à dire que c'est le juge d'application des peines. Mais après, est-ce que c'est du pouvoir ? De toute façon, le pouvoir implique déjà du contrôle, la remise en question, et de faire en sorte d'utiliser à bon escient ce pouvoir, surtout.
Aujourd'hui, par exemple, sur votre bureau, sans rentrer dans les détails des dossiers, vous travaillez sur quoi ? Ou cette semaine ?
Alors là, je fais du juge-commissaire. Après, je vais préparer mon audience de la semaine prochaine. Enfin, cette semaine, je ne vais pas forcément faire énormément d'instructions, parce que j'ai pas de greffe. Mon greffe est aux assises, donc c'est aussi les petites juridictions qui... Voilà, enfin, on peut pas faire ce qu'on veut quand on veut. Donc un juge d'instruction sans greffe, il peut absolument rien faire. Donc là, pendant 10 jours, le cabinet est un peu... à l'état de mort cérébrale, on attend de pouvoir refaire des choses après les assises. Mais j'ai de quoi m'occuper, j'ai des règlements, donc j'ai des jugements à motiver, ça fait quelques semaines maintenant. Et après, j'ai des ordonnances de règlement à prendre, j'en ai 8 ou 9 qui attendent, donc j'ai de quoi faire de toute façon jusqu'à la semaine prochaine.
Est-ce que le temps, c'est à la fois un allié pour faire mûrir le dossier, mais c'est aussi un adversaire, parce que le justiciable attend des règlements les plus rapides possibles ?
On est contraint à l'instruction par le législateur qui nous impose en matière délictuelle de... Enfin, alors, il ne nous impose pas, mais normalement, le délai normal pour finir un dossier d'instruction, c'est 1 an en matière délictuelle et 1 an et demi en matière criminelle. La difficulté, c'est qu'en réalité, dans les cabinets d'instruction, plus on va avoir de dossiers, moins de temps va pouvoir passer sur ces dossiers. Donc quand on fait le ratio en réalité du nombre de temps passé sur un dossier de A à Z, si on veut respecter ce délai de 1 an ou 1 an et demi, en réalité il reste pas grand chose, il reste 2 jours, en étant très très gentil. Donc il faut des fois se poser la question, est-ce que là cet acte, oui il est utile, mais est-ce que j'ai le temps nécessaire pour le faire, ou est-ce que ça va prendre trop de temps pour un intérêt limité, à ce moment-là je vais m'en passer. parce que bien évidemment, une victime, une partie civile, va toujours vouloir que ça aille le plus vite possible. Alors après, il y a certaines infractions où le temps va permettre aussi de voir l'évolution de la personne. Je pense notamment pour les mineurs, c'est très important aussi. Il y a eu une réforme il n'y a pas si longtemps, alors le juge des enfants pourra en parler bien mieux que moi, mais avec une césure du procès pénal, avec une déclaration de culpabilité rapide et une peine qui est prononcée finalement un peu plus tard. Comme ça, la victime est reconnue en tant que victime et en même temps, on peut voir comment le mineur a évolué. Et ça, l'instruction, on l'a aussi, puisque le juge d'instruction peut s'intéresser aux affaires des mineurs et des majeurs. Donc les mineurs, on a cette casquette un petit peu particulière parce qu'on n'est pas du tout juge des enfants, mais en même temps, on doit aussi prendre en compte la spécificité de cette population, notamment sur les mineurs qui peuvent être assez jeunes.
Là, qui ont 11 ans ?
Là, c'est détenu. Là, ils sont relativement calmes. Quand c'est plus embêtant quand ils commencent à s'insulter. Mais après, le gros avantage que ça a, c'est de pouvoir jauger en temps réel en fait le niveau de tension au sein de la maison d'arrêt.
Pierre Chambaud, vous étiez déjà présent sur le banc de la presse pour l'affaire précédente. Vous êtes à nouveau sur une histoire un petit peu délicate, donc un prêtre qui abuse de sa position d'autorité en face d'une fratrie. Vous avez assisté à la première matinée. Une impression de ce qui se dégage déjà des premiers débats.
Elle est intéressante cette affaire parce qu'on n'est pas du tout sur le même type d'accusé. On est sur un accusé qui, là, par contre, est extrêmement intelligent. C'est pas moi qui le dis, c'est les expertises. On voit quelqu'un qui a beaucoup élaboré autour des faits, là où celui de la première affaire avait pas beaucoup pris de recul, même après une très longue instruction. Les instructions ont duré à peu près le même temps, en plus, dans les deux cas. Là, on est sur quelqu'un qui a beaucoup plus élaboré. Là, ce matin, on a eu que des expertises psychiatriques. Deux en l'occurrence parce qu'il en a redemandé une. Il y en a une qui lui allait pas, donc il en a redemandé une. Dans ces deux expertises, il apparaît très égocentrique. Il pense qu'à lui, il parle peu des victimes. Il faudra voir s'il arrive à verbaliser quelque chose envers les victimes. Il a été invité un peu à le faire en cette fin de matinée. Ça n'a pas été simple, ça a été difficile.
Je me mets là. Alors, je m'appelle Mélina Babu, je suis avocate. J'ai prêté serment l'année dernière, le 1er décembre 2023. Donc, je suis une toute jeune avocate. J'ai fait mes études à Clermont-Ferrand pendant 8 ans. Et ensuite, j'ai décidé d'intégrer le barreau d'Auriac, car je suis originaire du Cantal. Donc, on revient toujours à nos sources quand on est cantalou. Et donc, voilà, j'exerce dans le palais de justice d'Auriac. Et mon cabinet est juste à côté du palais.
Ce matin, c'était quoi ?
Ce matin, c'était une audience de référé. Donc c'est une procédure d'urgence dans laquelle on demande certaines mesures au président du tribunal, notamment des expertises, ce genre de choses.
Voilà. Un an après avoir prêté serment, comment vous vous sentez ?
Je me sens très bien. Vraiment très bien au barreau d'Auriac, notamment parce qu'en fait c'est un petit barreau, c'est assez familial en fait comme environnement, on connaît rapidement tous les magistrats, tous les confrères, ils ont tous été très bienveillants avec moi. Alors au début, j'étais un petit peu stressée parce qu'on a un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur quand on commence. On a fait 8 ans de théorie et passé dans la pratique, on se sent un peu illégitime. Et en fait, d'avoir conversé avec les confrères, ça m'a aidé à ne plus du tout être stressée et à être parfaitement intégrée.
Vous êtes généraliste comme avocate ?
Tout à fait, oui.
Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui pointe en vous, plus vers le pénal, vers le civil ? Qu'est-ce qui bouge ?
Alors, normalement, je suis de formation pénaliste. C'est ce que j'ai fait pendant mes années d'études. Donc, quand je suis arrivée, c'était le droit pénal que je connaissais le mieux. Au civil, j'étais même un petit peu à la rue. Heureusement, du coup, mon patron, maître Jacques Verdier, m'a bien formée, m'a très vite appris les choses. Donc, le civil s'est mis à m'intéresser finalement autant que le pénal.
Alors, vous avez passé donc toute votre vie dans le Cantal. Maintenant, en tant qu'avocate, quel regard vous avez sur ce département ?
Alors, on s'aperçoit qu'en fait, les gens sont assez procéduriers et qu'il y a énormément de litiges. Et qu'en fait, on est très peu d'avocats comparé au nombre de litiges qu'il peut y avoir sur tout le département. Alors, c'est une zone très peu criminogène. Donc, pour une pénaliste comme moi, on va dire qu'il n'y a pas de grands crimes qui se produisent. Et d'ailleurs, c'est tant mieux pour la population. Mais toutefois, voilà, les gens restent assez procéduriers. Il y a beaucoup de litiges. litiges, beaucoup de différends. Et l'accès à la justice, c'est pas toujours évident pour les gens.
Est-ce que le droit rural, ça fait partie de vos affinités également?
Alors, vous voyez, je l'ai oublié étonnamment en le citant. Mais oui, je fais aussi du droit rural. Je commence à me pencher sur la question. Et c'est très intéressant, en fait, d'un point de vue professionnel, parce qu'il y a peu d'avocats qui font du droit rural, alors qu'en fait, c'est une majeure partie des litiges qui sont dans le Cantal. Il y a beaucoup d'agriculteurs. Donc, je pense que c'est important de s'intéresser au droit rural. Au début, quand on connaît pas, ça fait un petit peu peur. Mais en fait, ça peut être très intéressant, oui. C'est rentrer dans l'intimité des campagnes et dans les litiges donc entre agriculteurs, qui eux, justement, aussi ont besoin d'être vraiment informés sur le monde de la justice, qui est un milieu totalement à part pour eux. Oui.
Dans 10 ans, vous serez où ?
Dans 10 ans, dans le Cantal, j'espère. Parce que nous, les Cantalous, on est très chauvins. Donc oui, l'objectif, c'est de rester dans le Cantal. Puis je me plais beaucoup dans le cabinet dans lequel je suis. Il y a une jeune avocate donc, qui va prêter serment en décembre et qui intègre le cabinet dans lequel je suis. Donc on va être toutes les deux vraiment sur la même longueur d'onde, vu qu'on débute à une année près. Et puis je m'entends très bien avec mes confrères et je me plais ici. Donc j'espère que je serai encore là dans 10 ans.
Philippe Julliard, dans votre bureau, en décoration, beaucoup de livres. C'est quoi ? C'est le code pénal façon Napoléon ?
C'est exactement ça. Les livres, c'est important pour les juges, surtout les juges de ma génération, parce qu'on a appris tout ce qu'on sait dans les livres. Il n'y avait pas forcément Internet quand j'ai fait mes études de droit. J'en ai ouvert quelques-uns et je peux vous en prendre un là sur le fait. Ce livre-là, c'est un très joli livre, qui est un livre, voilà, Les lois civiles dans leur ordre naturel, par un très très grand juriste, Monsieur Domain, avocat du roi au siège du présidial de Clermont-Ferrand. C'est un livre de 1766. Voilà, et dedans, vous avez à peu près tout le droit civil, en fait.
Sur votre bureau, il y a le code pénal. Je lisais aussi que vous aviez mentionné dans un article... En 10 ans, le code pénal a été modifié 133 fois. De nos jours, on dénombre 15 000 types d'infractions.
C'est vrai.
C'est vous, ça ?
Oui, c'est moi. Enfin, c'est moi. Je n'ai pas fait le calcul, mais je crois que je l'ai repris dans un journal du soir, comme on dit. Je crois que c'est Le Monde qui avait fait paraître ce chiffre, qui est un chiffre public. Et effectivement, on a assisté à une massification vraiment très importante des infractions. On a énormément d'infractions. Voilà, c'est un constat, c'est un fait. Allez.
Bon. Quoi, une heure, là, c'est ça ?
Même pas, je sais pas. L'audience peut être très courte, ou être... ça peut être 20 minutes, ou ça peut être 2 heures, ou 3 heures. Enfin, il n'y a pas de temps prévu.
On a 3 dossiers, dont 2 qui, à mon avis, sont joints. Et
d'accord.
Dont 1 où tout le monde a déposé, et dans les autres, Maître Tazioli a déposé et Maître Portejoie n'a pas conclu.
Très bien. Bon, ben on va se rendre à cette audience.
La Montagne, assise du Cantal. Il serait imprudent d'engager un tel homme dans le ministère presbytéral, estime un supérieur en 1990 en refusant de le laisser poursuivre son parcours. L'accusé a eu sa vocation à 19 ans, mais n'a souhaité devenir prêtre qu'en 1984, à 30 ans. Il est vite décelé des problèmes d'affectivité, des moments d'abandon qui ont conduit à des incidents. Les gendarmes mettent rapidement des réalités sur ces mots. En 1984, alors maître d'internat, il est jugé pour avoir agressé sexuellement 2 enfants. La condamnation à 3 mois de prison avec sursis a disparu du casier. De 1990 à 1994, au moins 3 autres faits similaires apparaissent à Rome et dans les Bouches-du-Rhône. Systématiquement, l'ecclésiastique parvient à se retrouver seul dans une chambre avec un adolescent et des abus ont lieu. L'Église connaît les faits de 1984. Pour le reste, la sémantique est floue, mais les échanges nombreux reflètent l'inquiétude des interlocuteurs à mots couverts. Et c'est ainsi que l'ecclésiastique est ordonné prêtre en 1995 dans un petit diocèse qui ne permet pas de l'éloigner des mineurs. Finalement, l'une des victimes s'effondre en pleurs à la messe en septembre 2018. La directrice d'enquête a un regard laïque. Une dizaine de prêtres, dont des évêques, étaient au courant. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas été écarté de son sacerdoce.
Pierre Chambaud, derrière le journaliste, comment vit le jeune homme en vous par rapport à ces faits ?
Je suis assez content d'avoir une place dans cette cour d'assises et de ne pas être simple spectateur, d'avoir un rôle en fait à jouer en racontant les faits. Je pense que c'est ce qui me permet d'avoir un peu de recul sur les faits et sur ce qui se raconte dans la cour d'assises. Après, il n'y a rien à faire. Ça, c'est des, voilà, on est sur des récits qui sont particulièrement durs. Et on rentre fatigué le soir. Mais comme on a un rôle à jouer au niveau de la cour d'assises, notre petit rôle, hein, juste à rapporter ce qui s'y passe, je pense que ça aide à prendre un peu de distance avec les faits. Ouais.
C'est pour ça que vous allez courir ?
Entre autres, mais oui, entre autres, oui.
Une personne dans l'audience est sortie de la salle d'audience et nous a raconté en off, en 5 minutes, que voilà, le Cantal, c'est un lieu clos, il y a une véritable omerta. Que rien ne se dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce mot omerta, silence pesant, qui date pas d'hier, qui date depuis des années ?
C'est un truc qu'on entend régulièrement, effectivement. C'était un article, je ne sais plus quel journal, qui avait titré que le Cantal, c'était la Corse sans les bombes, aussi, pour rappeler voilà, ce terme d'omerta. Il y a une forme de pudeur, mais que j'ai retrouvée dans d'autres régions. J'ai retrouvé par exemple en Alsace, pareil, où c'est difficile de faire parler les gens, il faut les prendre un peu le temps de se connaître, de se rencontrer. Il y a cette forme de pudeur-là, très clairement, en Auvergne. Après, une forme d'omerta, il l'a dans ce dossier-là. Il y a une omerta au niveau de l'Église. Je pense que ça a été assez clairement dit par tout le monde.
La question qui se pose, c'est de savoir si, véritablement, il y a eu une prise de conscience de la part de ce prêtre, ou si on est face à des propos de circonstances en raison de l'enjeu.
Le prêtre dit avoir été longuement suivi par un psychiatre, avoir étayé les faits. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ?
D'abord, je pense que c'est vrai. Je ne mets pas en doute le fait qu'il ait eu un suivi très important. Le problème des suivis, c'est toujours de savoir ce que ça apporte. Est-ce que véritablement ça apporte une véritable remise en cause ? Ça suppose une personnalité qui est capable de se remettre en cause ? Ou est-ce qu'au contraire, ça n'apporte pas grand-chose parce qu'on est face à quelqu'un qui n'est pas capable de se remettre en cause ? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est complètement tourné vers lui-même, par définition, et donc il est en permanence dans le calcul de ce qui va être bon pour lui. Et donc les aveux peuvent donner le sentiment de s'inscrire dans ce calcul, en disant de toute façon dans la position qui est la mienne, il faut que je reconnaisse. Je reconnais le moins grave, les agressions sexuelles, parce que ça m'expose à une peine relativement modérée, et je nie les viols parce que ça m'expose à une peine beaucoup plus sévère.
Comment vous, avocat des parties civiles, pouvez faire craquer cet édifice pour faire advenir une parole de vérité ?
Oh, j'ai pas cette prétention, j'arriverai pas à le faire craquer. Peut-être qu'il y en a qui en sont capables. Moi, je m'en sens pas du tout capable, je le ferai pas craquer. Je dirai ce que j'en pense. J'espère que le viol sera retenu. Hein. Son avocat va plaider l'acquittement, il l'obtiendra peut-être. Moi, j'espère que les viols seront reconnus parce que j'ai l'intime conviction, c'est celle d'un avocat, que ces viols sont réels et que celui qui les dénonce est profondément sincère.
Agnès Martin, avocat au barreau de Grenoble. J'interviens dans cette audience pour l'association L'Enfant Bleu. L'association Enfant Bleu intervient dans certains procès. Parfois, nous intervenons parce que nous avons apporté un soutien psychologique gratuit aux victimes, parce qu'en plus de subir cet état de victime, il faut qu'ils règlent les frais pour se reconstruire. Donc l'association offre ce service gratuit. Donc nous intervenons pour obtenir le remboursement auprès des accusés ou prévenus ou condamnés en fonction de ces sommes avancées pour les victimes. Et en l'état de ce dossier, nous intervenons au titre d'un procès un peu emblématique, dans la mesure où quatre enfants violés par un prêtre alors qu'ils étaient adolescents et qu'ils sont juste majeurs, on est un peu dans une situation différente que le procès du père Prélat, où ils étaient déjà tous adultes, avec un temps certain d'écoulé.
Alors, Maître Martin, la première matinée d'audience s'est passée comment ?
L'accusé reconnaît, mais manifestement a grande difficulté pour... Il reconnaît matériellement, mais on ne sent rien de ce que ça implique, induit pour les victimes. L'expert dit tendance pédophile et donc trouble de la personnalité et un certain déni, en tout cas à l'époque des expertises, à l'audience, il semblerait que là encore on revienne sur la matérialité, sur le terme. Je reconnais les faits, mais ça n'a pas de consistance, voilà. Le terme, ça n'a pas de consistance pour lui. Et manifestement, alors qu'il a un niveau intellectuel correct, voire supérieur, il n'arrive pas à l'exprimer.
Comment vivent vos clients qui sont victimes ce début de procès ?
Oui, ils vivent très mal cette première journée. Le fait de se retrouver en présence de leur agresseur est extrêmement éprouvant. Ils le trouvent arrogant, ils le voient prendre des notes en permanence. Ils ont l'impression qu'il aborde ce procès un peu comme il pouvait aborder les réunions ecclésiastiques. Et c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup de mal à supporter. Voilà, bon.
Je suis Paolo Giambiasi. Donc moi, je suis procureur d'Aurillac depuis 2021. Donc ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que je suis dans le Cantal. C'est mon premier poste de procureur chef de parquet, hein, mais j'avais exercé avant, pendant un certain nombre d'années déjà au parquet, en qualité de substitut du procureur. Je suis rentré dans la magistrature en 2013. J'ai d'abord été substitut en région parisienne, au parquet de Créteil. Ensuite, je suis parti à la chancellerie, à la direction des services judiciaires, qui est la direction qui gère les juridictions, hein, dans leurs aspects ressources humaines, dans leurs aspects financiers, dans leurs aspects matériels. Et après mon passage à l'administration centrale, je suis devenu substitut au parquet de Paris, où j'avais à la fois des fonctions de gestion auprès du procureur, donc du secrétariat général. J'étais secrétaire général adjoint, c'est-à-dire gérer la juridiction parisienne, le parquet de Paris, et dans un cadre diarchique, la juridiction parisienne en lien avec le siège. Et puis aussi des attributions juridictionnelles, comme par exemple aller à l'audience dans le cadre de ces fonctions-là de substitut à Paris. Et puis, donc, comme je le disais, je suis ensuite devenu procureur dans le Cantal en 2021.
Expliquez-nous le fonctionnement de ce parcours.
Quand je suis rentré dans la magistrature, j'avais vraiment en tête que j'exercerai aussi bien au siège qu'au parquet pour voir la diversité des fonctions qu'offre le métier. J'ai d'abord commencé par le parquet et je m'y suis beaucoup épanoui. Et je considère d'ailleurs qu'on pourrait faire toute une carrière au parquet sans en être lassé, tellement les fonctions peuvent être différentes entre les grandes juridictions et les plus petits tribunaux, les zones urbaines, les zones rurales, les parquets spécialisés, vous pouvez traiter de dossiers très techniques, etc., les parquets en appel et en première instance. Mais je voulais aussi voir l'aspect siège, donc la fonction du juge, qui est une fonction à la fois différente sur le plan institutionnel, donc on est à une autre étape et dans un autre rôle de la procédure en matière pénale, et puis aussi voir la fonction de juge dans son aspect civil, puisque quand on est procureur, on fait beaucoup de pénal, c'est-à-dire les infractions, les délits, les crimes qui sont commis par les personnes. On peut faire aussi un peu de civil, mais c'est une part très limitée de l'activité, hein, l'activité de parquet civil. Tandis que quand on est juge, la partie qui est concernée à l'activité civile dans un tribunal est très importante, hein. C'est la plupart des affaires sont avant tout des affaires civiles, des affaires de divorce, des affaires de protection de majeur, de mise sous tutelle, sous curatelle, des affaires des litiges entre personnes, donc c'est le quotidien des personnes. Et moi, j'étais vraiment intéressé à l'idée de voir les deux, raison pour laquelle j'ai pris ces fonctions de président de tribunal à Nevers. Aussi parce que, au-delà de l'activité juridictionnelle, ça permet de voir l'autre aspect de la diarchie. Le procureur gère avec le président du tribunal l'organisation et le fonctionnement du tribunal. Hein, il y a des prérogatives communes et des prérogatives spécifiques. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir à la fois la fonction de chef de juridiction côté parquet et aussi de voir la fonction de chef de juridiction côté siège.
Est-ce que vous pouvez nous raconter votre arrivée à Aurillac ?
Pour moi, ça a été, disons, une nouveauté à deux titres. D'abord, parce que j'avais toujours exercé en région parisienne. Et puis j'avais même été auditeur de justice, c'est-à-dire élève magistrat à Bobigny. Donc même l'apprentissage du métier de magistrat, je l'avais fait dans un très grand tribunal de région parisienne. Donc là, ça a été une double nouveauté. D'abord, la nouveauté d'avoir un tribunal qui est un tribunal à taille humaine, ce qui change l'organisation. Ça implique beaucoup de polyvalence, par exemple, pour les magistrats, comme pour les greffiers d'ailleurs, puisqu'on a des portefeuilles de contentieux, des types d'affaires très différents, alors que dans les grands tribunaux, les magistrats et les greffiers sont beaucoup plus spécialisés. Et puis, à l'intérieur de la juridiction, vous avez la possibilité d'être beaucoup plus transversal, d'échanger beaucoup plus facilement avec les avocats, avec les juges, parce qu'il y a une proximité géographique à l'intérieur de la juridiction, c'est facile de se parler. Et puis le deuxième aspect, c'est aussi de découvrir un ressort qui est un ressort majoritairement rural. Il y a évidemment beaucoup d'infractions qui sont des infractions de droit commun que vous retrouvez dans toutes les juridictions, c'est le cœur de métier, mais il y a aussi des spécificités dans un ressort rural. Vous avez une délinquance organisée, par exemple, qui est quand même moins importante. Malheureusement, elle arrive aussi dans les ressorts ruraux, notamment le trafic de stupéfiants, hein, qui n'épargne pas le Cantal, mais une délinquance organisée qui est moins importante. Et puis des contentieux, des affaires qui sont particulièrement liées à la ruralité, des infractions pénales de l'environnement, par exemple, puisqu'il y a un patrimoine naturel qui est très important à protéger, pollution d'eau, pollution de sol, etc. Des contentieux liés aux activités agricoles, des contentieux liés à la chasse, que vous trouvez spécifiquement dans les ressorts ruraux. Donc c'est à la fois une délinquance qui est similaire pour la délinquance de droit commun, les affaires routières, les violences, un certain nombre de vols qui sont commis, mais ce sont aussi des spécificités liées à cette ruralité-là.
Maître Canis, comment se passe cette audience, comment vous la vivez ?
L'événement permanent, c'est le positionnement du prêtre. Il fait un calcul qui consiste à dire les agressions sexuelles, il vaut mieux que je les avoue, les viols, il vaut mieux que je les nie. Mais interrogé tout à l'heure sur un geste très précis, à savoir s'il avait forcé un des enfants à l'embrasser sur la bouche, il nous décrit une scène où c'est l'enfant qui s'est jeté sur lui et qui l'a embrassé sur la bouche, et le pauvre, il s'est laissé faire. Donc c'était tout à fait symptomatique de son incapacité absolue à regarder en face ce qu'il a pu faire. Un frère qui n'avait jamais parlé, un des aînés, parce qu'ils sont nombreux, mais un des aînés qui n'avait jamais parlé, qui a parlé tout à l'heure, a dit très clairement qu'il avait été victime de viol à plusieurs reprises. Il y a eu un donné acte de la part du président qui a demandé à la greffière de noter très précisément ce qui avait été dit. Après, le jeune homme qui a fait cette révélation a dit que lui, il voulait plus en entendre parler, qu'il voulait pas qu'il y ait des poursuites, qu'il ne le répéterait jamais, mais que lui, il n'en pouvait plus, il voulait tourner la page et qu'il ne prêterait pas la main à une nouvelle procédure.
Et cette personne a une autorité par rapport à ses enfants, notamment amicale, mais aussi parce qu'il porte la soutane.
Oui, on est dans une famille très dévote. Hein. La messe tous les dimanches, ils sont tous enfants de cœur. La foi occupe une place considérable dans leur vie. C'est un peu le sens de leur vie à l'époque. Ça a changé d'ailleurs. Et donc, il est véritablement la figure d'autorité, la figure d'admiration même. Il est le prêtre dans une famille où la foi occupe une place considérable. Il est intelligent, il est cultivé, il sait séduire en étant gentil, en offrant des cadeaux, en étant présent quand il y a des difficultés financières. Et donc, il a une place absolument considérable dont il va user, abuser pour commettre des faits délictuels et criminels.
Un peu de lumière quand même dans cette audience. Un des fils qui a vécu les choses dit qu'il fonde une famille, qu'il a 20 ans, qu'il a un métier, un CDI, donc qu'il a une vie relativement stable.
Oui, heureusement, toutes les victimes d'agressions sexuelles ne sont pas perdues à vie. Il y en a qui mettent très longtemps à s'en remettre et à construire. Il y en a beaucoup, la majorité heureusement, qui arrivent malgré tout à surmonter les épreuves et à construire une vie normale. Et tout à l'heure, on en a vu un qui nous a expliqué qu'aujourd'hui, il avait une compagne qui est enceinte, il va avoir un enfant, il a un métier tout à fait stable et il a construit une véritable vie malgré les blessures passées.
Régine, nous avons quitté la salle d'audience où vous êtes présente dans le public.
Oui, il y a deux raisons. D'abord parce que je voulais soutenir cette famille, où il y a quand même cinq jeunes qui ont été abusés dans cette fratrie. Et puis la deuxième raison, c'est parce que moi-même, je suis une victime de l'Église. J'ai été violée, j'avais 8 ans, par un prêtre. Et donc pour moi, c'était très important, d'être ici, puisque moi, je n'ai pas eu de procès. Et donc pour moi, c'était important d'être présente et puis soutenir cette famille, parce que c'est un procès hors norme quand même pour un département comme ici. Le Cantal est quand même un département fermé, enclavé, peu ouvert à la société, où les gens se connaissent tellement, avec une population des plus vieilles de France, et qui les gens n'osent pas s'afficher à un procès qui touche la structure religieuse catholique du département, qui est grandement responsable, à mon avis, de cette omerta, de cet aveuglement qui a permis de laisser agir un pédocriminel pendant des années. Et donc aujourd'hui, j'étais là à deux titres.
À 8 ans, vous dénoncez les faits ?
Alors à 8 ans, je préviens mes parents. Alors le prêtre, ils m'ont déplacé, tout simplement. Et moi, on m'a dit, le prêtre va partir, tu n'as plus besoin d'avoir peur, tu ne le reverras plus et tu n'en parles plus.
Vous avez continué votre vie, vous avez grandi.
Bah oui, 8-9 ans.
Vous avez vieilli.
Oui.
Et à quel moment la parole a eu besoin chez vous d'être libérée à nouveau ?
Alors j'ai libéré la parole en fin 2019, quand la parole a commencé à se libérer, que j'ai vu donc à la télé les différents témoignages. Là, j'ai une prise de conscience et je me suis dit, oui, effectivement, il faut aussi que tu en parles. Donc, j'ai prévenu l'évêque du diocèse avec qui j'ai discuté et qui, tout de suite, a pris mon témoignage en compte, l'a transmis au procureur. Et après, j'ai mis un petit peu de temps pour, effectivement, déposer plainte. Un dépôt de plainte, mais bon, prescription, puisque c'était dans les années 60. Et après, moi, ce qui est la satisfaction, parce que j'ai eu quand même la reconnaissance en tant que victime, au bout de 55 ans.
Maître Canis ?
À vous.
On se rejoint ?
Oui, on vous attend
dehors ? Oui.
Est-ce que vous pourriez revenir sur votre plaidoirie ?
L'enquête a démontré de façon très claire que l'Église avait un dossier administratif extrêmement complet sur l'accusé, qui démontrait qu'il avait commis des faits comparables dès les années 80 et même au cours des années 90, qu'ensuite il y avait une lettre très claire d'un garçon qui avait été victime de faits de la part de l'accusé, et que malgré tout, il a été ordonné prêtre alors qu'il n'aurait jamais dû l'être. Certains membres de l'Église, d'ailleurs, s'étaient opposés à ce qu'il le soit. D'autres sont passés outre. Et puis le sentiment qu'on a en lisant ce dossier, c'est que véritablement, l'Église ne tenait absolument pas compte de la gravité des faits et d'existence des victimes. On parle d'incidents malheureux, d'aventures qu'il faut cacher en espérant que ça se sache pas trop. On a véritablement le sentiment qu'il faut absolument ne pas faire de vagues, que les choses ne sachent pas. Et pas un seul instant dans les écrits que j'ai pu citer, la victime n'existe. Seul existe le prêtre qu'il faut protéger tout en protégeant l'institution. C'est absolument honteux et j'entendais le dénoncer.
Vous avez aussi eu des mots très durs par rapport à l'évêque qui a été auditionné en visio, qui lui-même était destinataire de tous ces courriers alarmants en disant « Attention, cet homme ne peut pas être dans la prêtrise ».
Alors il avait le dossier administratif complet. Et il s'est défendu là-dessus en disant « c'est pas moi qui l'ai ordonné prêtre ». Et à partir du moment où il était ordonné prêtre, je ne pouvais pas revenir là-dessus. Ce qui est sans doute vrai. Mais en revanche, il a reçu postérieurement une lettre d'un jeune homme qui disait avoir été à nouveau victime de l'accusé. Et cela aurait dû le conduire au minimum à convoquer l'accusé, au minimum à envisager de lui retirer le sacerdoce dans une paroisse où il était en contact avec des enfants, et au minimum de l'orienter vers d'autres fonctions, ce qui était parfaitement possible. Il n'a rien fait de tout ça, il n'en est absolument pas culpabilisé. Au contraire, il se glorifie en disant que si cette affaire a vu le jour, c'est grâce au signalement qu'il a fait. C'est assez déconcertant que de l'entendre. J'étais un peu désarmé d'ailleurs quand je l'ai interrogé.
L'institution a failli, donc vous employez des mots qu'elle cite aventure, petits soucis, et en face, calvaire, c'est le mot que vous employez, des victimes, vos clients.
Alors calvaire, c'est le mot qui est employé par la victime qui a écrit justement à l'évêque de Saint-Flour pour lui signaler qu'il avait été victime de l'accusé de façon plus récente que tous les autres qui avaient été cités dans le dossier administratif. Et je crois que ça résume parfaitement ce que peut ressentir un jeune homme, une jeune femme, à qui on impose, alors qu'il est encore enfant ou jeune adolescent, des actes sexuels dont il n'a absolument pas connaissance de l'existence, puisque l'entrée en sexualité se fait par l'agression sexuelle et par le viol. Et je crois que le mot calvaire est assez approprié, même s'il peut avoir une résonance particulière pour les catholiques.
Pierre Chambaud, en off, vous demandiez aux avocats ce qu'ils pensaient de la peine requise par l'avocat général, c'est-à-dire 15 ans. Pourquoi ?
Ah, moi je pensais que le parquet monterait un petit peu plus haut. Effectivement, et les avocats ont une autre vision, ils pensent qu'effectivement la peine requise est adaptée. Moi je m'attendais à ce que le parquet, à la manière dont il a requis, je pensais qu'il ne retiendrait pas beaucoup d'éléments positifs. 20 ans était le maximum, requérir 15, ça veut dire qu'il a quand même retenu des éléments positifs. Alors Paolo Giambiasi, l'avocat général, a requis 15 ans de réclusion criminelle, 10 ans d'interdiction de venir dans le Cantal, et un suivi socio-judiciaire à sa sortie de 10 ans.
Donc là, Régine, le procès qui a eu lieu au tribunal d'Aurillac, c'était presque un procès par procuration.
Exactement.
J'étais assis pas très loin de vous, et je vous voyais réagir physiquement quand les victimes parlaient, quand le prêtre abuseur parlait, quand il y a eu les réquisitions de l'avocat général. Il a réclamé 15 ans. C'est quoi votre sentiment ?
Moi, il n'y a qu'une chose. Je pense aux enfants, la reconstruction des enfants. Voilà, ça restera là, comme moi, c'est resté une mémoire traumatique. On n'effacera jamais ce qui s'est passé, les actes. Et moi, j'ai fait une psychothérapie quand j'ai libéré ma parole. Ceci dit, quand on est reconfronté à des faits, c'est très difficile. Ça remue et ça, voilà, ça nous rappelle le procès que je n'ai pas eu. Donc aujourd'hui, moi j'incite vraiment les gens qui ont vécu des choses comme moi je les ai vécues, effectivement, à venir parler, à libérer la parole, à mettre des mots MOTS sur les mots MAUX, parce qu'il faut que la parole se libère. Et je pense que sur le Cantal, ça va être très difficile. Et ça, je le dis, oui, vraiment, fortement. Hein. Ça va être très difficile.
Le verdict est tombé.
Oui, le verdict est tombé. Il a été reconnu coupable de l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Donc il n'y a absolument aucun doute sur le fait que la parole de ses enfants, adolescents, désormais adultes, a été totalement reconnue. Donc c'est certainement une satisfaction pour mes clients. Je pense que c'est de toute façon quelque chose qui peut les aider pour l'avenir.
Et la peine est de 18 ans. Alors que l'avocat général avait requis 15.
Ouais, je crois que c'est le prix à payer pour l'attitude qu'il a eue tout au long des débats, semblant un peu absent, prenant des notes un peu comme s'il participait à une réunion ecclésiastique, alors qu'on est dans une cour d'assises, attitude qui a pu agacer. Son discours est très ambigu, absolument pas clair, et tout cela, sans doute, a joué dans la manière dont ils ont apprécié sa personnalité, parce que la personnalité fait partie d'un des éléments dans l'appréciation de la peine.
Maître Canis, demain c'est le week-end ou pas ?
Ben non, pas vraiment. Demain matin, je vais à la maison d'arrêt voir mes clients, comme je l'ai toujours fait. Et puis, il va falloir préparer le dossier criminel de mardi et mercredi. Parce que, bien évidemment, un dossier, ça s'improvise pas. Il faut le lire, l'étudier, éventuellement contacter les clientes si j'ai quelques questions à leur poser avant l'ouverture des débats, peut-être être contactées par elles si elles ont quelques angoisses, quelques inquiétudes. Donc c'est le week-end, mais il y a toujours un petit peu d'activité. On peut pas dire que c'est un métier dans lequel les choses s'arrêtent.
Et le samedi, vous allez en maison d'arrêt, et ça fait longtemps que vous faites ça ?
Ben, je fais ça depuis toujours. Pendant 28 ans, j'ai fait ça toute la journée le samedi, aujourd'hui uniquement le matin. Mais vu que je fais beaucoup de défense, essentiellement, je suis obligé d'aller voir mes clients pour préparer les dossiers, préparer les instructions, les rassurer, maintenir le contact, enfin tout ce qui fait que les choses se passent le mieux possible.
Les clients, généralement, c'est qui que vous défendez ?
On n'a pas de grand banditisme, on est une région relativement protégée, mais on a des dossiers comme partout, beaucoup de dossiers de mœurs, beaucoup de dossiers de stupéfiants comme partout. On peut avoir tout mode de délinquance, hein, que ce soit des extorsions de fonds, des violences, beaucoup de violences conjugales à une certaine période. Donc on a absolument de tout. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que ça nous permet de voir des personnes très différentes et des dossiers très différents.
Pourquoi le plus souvent en défense, dites-vous ?
Bah parce que depuis que j'exerce, j'ai toujours été très souvent du côté de la défense. Je suis très présent en maison d'arrêt, donc ça conduit à ce que le bouche à oreille invite les clients à me choisir plutôt du côté de la défense. Mais ma présence à Aurillac prouve le contraire, puisque je suis deux fois en partie civile, d'abord à la cour d'assises et ensuite à la cour criminelle.
La petite maison d'arrêt à côté de ce tribunal, on va dire qu'elle est légèrement surpeuplée. Celle de Clermont, elle est comment ?
Alors celle de Rion, enfin oui. C'est Rion-Clermont, 568 places, 740 détenus. Voilà à peu près où on en est aujourd'hui. L'encellulement individuel qui était le principe a complètement disparu. Ils sont à deux, voire exceptionnellement à trois par cellule, ce qui commence à poser des difficultés très importantes d'intendance, parce qu'il n'y a plus d'accès aux psychologues, aux psychiatres, plus d'accès au travail, des difficultés pour les cantines, enfin des difficultés multiples. Ça engendre un climat de violence évident, et donc ça rend les conditions de détention extrêmement difficiles, voire parfois pas normales sur le plan humain.
Dominique Simoneau, ancienne journaliste de Libération, maintenant contrôleur des prisons, empile les rapports, rien ne change.
Oui, elle est très impliquée, très, très bien, parce que lorsqu'on lui écrit, elle répond. Elle s'implique, elle fait tout ce qu'elle peut pour améliorer les choses. Mais c'est vrai qu'elle doit se sentir bien impuissante face à une machine qui fonctionne de façon très administrative. On gère des flux, on gère des hommes. Et puis, comme le disait récemment le procureur général près de la Cour de cassation, une augmentation des peines. Les juridictions sont de plus en plus sévères, c'est indéniable. Est-ce que c'est parce que la délinquance est plus grave ou est-ce que c'est un nouvel état d'esprit des juridictions ? Je vous laisse apprécier, mais ce qui est certain, c'est que les peines sont de plus en plus sévères. Et donc, la détention de plus en plus remplie.
Omerta dans le Cantal. Avec le président Philippe Juillard, le procureur de la République Paolo Giambazzi, Kitry Lasser, juge des contentieux de la protection, Laurence Mollaret, juge honoraire, Nicolas Orlic, juge d'instruction, les avocats Mélina Babu, Agnès Martin, Pierre Chavignier, Jean-François Canis, le chroniqueur judiciaire de la montagne Pierre Chambaud et Régine. La série documentaire, coordination Emmanuel Laurentin, chargé de programme Marie-Vonna Bolivier et Anaï Morales, mixage Éric Villenfin, réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Michel Pomarède.